Bonjour, bienvenue dans votre émission Histoire et mémoire sur Radio Grand Ciel. Alors comme chaque mois, avec les archéologues de la ville de Chartres, nous vous faisons donc découvrir d'autres facettes de l'histoire locale, grâce notamment aux découvertes réalisées lors des fouilles et des études menées à Chartres. Alors pour cette dernière émission de la saison, nous sommes en compagnie de Delphine Capron. Bonjour Delphine.
Bonjour.
Alors Delphine est liticienne au sein de la direction de l'archéologie. D'ailleurs, petite parenthèse, Delphine présentera une partie de son travail lors des Journées nationales de l'archéologie qui se déroulent les 17 et 18 juin prochains sur le site archéologique de Saint-Martin-en-Val. Alors Delphine, avant de débuter l'émission, parce que nos auditeurs et peut-être même les plus jeunes ont eu l'oreille chatouillée, qu'est-ce que liticienne ?
Alors, liticien vient du grec lithos qui signifie la pierre. Donc j'étudie tous les objets en pierre. Les objets en pierre, nous les retrouvons pour toute la période préhistorique qui couvre le paléolithique, paléo qui signifie ancien, l'ancienne pierre, et le néolithique, néo, nouveau, la nouvelle pierre. Pour être plus précise, pour la préhistoire, il y a le paléolithique où les hominidés sont des prédateurs, puis le néolithique où l'homme devient un producteur avec la domestication des animaux comme chats, moutons, chèvres et aussi celle des céréales.
Donc nos premiers agriculteurs au néolithique en fait.
Exactement.
Alors avec Delphine, nous allons découvrir ces objets en pierre qui sont donc des, on va dire, les principaux témoins des cultures disparues et de l'histoire de nos ancêtres. Et notre voyage dans le temps donc débute donc au paléolithique inférieur, il y a moins de 1,2 million d'années. Mais nous consacrerons quand même la plupart de notre émission au néolithique grâce aux découvertes locales. Mais avant, Delphine, est-ce que vous pouvez nous décrire davantage votre métier et son importance justement pour la compréhension de nos lointains cousins et ancêtres de la préhistoire ?
Donc j'étudie le mobilier en pierre, donc la pierre peut être en silex, en grès, puis j'estime de manière plus ou moins large la chronologie du site dont ces objets sont issus et dans certains cas je définis la culture à laquelle se rattache le groupe humain. Donc le liticien étudie l'outillage en pierre, on va dire la caisse à outils de nos ancêtres, avec l'approvisionnement, c'est-à-dire l'origine des gisements, les techniques et la gestuelle employée pour la conception, fonction et abandon des objets. C'est-à-dire que mon métier fait que j'appréhende la stratégie et la gestion des ressources premières locales ou non, la distance entre le lieu d'enfouissement et celui du gîte, et aussi, je définis la fonction de l'objet s'il appartient par exemple à la sphère domestique ou à une activité plus spécialisée comme la chasse, la pêche, le travail de la terre.
Donc Delphine, vous faites parler les pierres en fait.
Exactement. Donc faire parler les pierres, mais ces pierres-là sont surtout les indices les plus fiables pour retracer l'évolution technique et culturelle. Chaque période chronologique est représentée par une industrie. L'industrie désigne l'ensemble des objets fabriqués par l'homme, de l'acquisition des matières premières à l'abandon de l'objet. Pour la période du néolithique, avec l'invention de la céramique non tournée, les objets en pierre et céramique permettent aussi de bien dater et de mettre en avant toutes les techniques employées.
Mais ce qui est intéressant, ce que vous disiez, c'est que à chaque période, il y a du coup une industrie, une technique qui vous permet, vous, en tant que spécialiste, de reconnaître quasiment à vue d'œil
oui,
à quel groupe ou à quelle période appartiennent les objets fabriqués.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que chaque objet, de par la façon dont il a été conçu et fabriqué, va se rattacher à une gestuelle et une technique que l'on sait très bien recaler dans le temps. Et la pierre est très importante pour ces périodes anciennes, tout simplement parce que c'est un matériau qui traverse les millénaires. L'homme préhistorique a aussi travaillé le bois, la peau, le bois animal, mais ce sont des matières qui, elles, périssables, qu'on retrouve que très rarement ou exceptionnellement.
D'accord, donc vraiment la pierre, c'est votre sujet d'étude principal parce qu'effectivement, elle traverse les âges, enfin les siècles. Mais il n'y a donc pas que la pierre qui a été travaillée par nos ancêtres. Ça, c'était peut-être un des préjugés ou idées préconçues qu'on pouvait lever et c'est parfait, ça c'est fait. Mais revenons au cœur de notre sujet. Quels sont les premiers outils en pierre créés par l'orme? Est-ce qu'on peut remonter un petit peu dans le temps et faire un petit historique de ces premiers outils?
Les premiers outils que l'on connaît, ce sont des outils qui datent d'il y a 2,7 millions d'années. Ce premier outil est le galet aménagé qu'on appelle chopper. C'est un outillage très rudimentaire qu'Homo habilis utilisait pour découper la viande. D'accord. Puis, on avance dans le temps, à 1,2 million d'années, apparaît le biface, qui est vraiment l'outil emblématique de la fin du paléolithique inférieur et du paléolithique moyen. C'est un objet que l'on retrouve dans votre ville.
Effectivement, on l'a mis en photo parce qu'il accompagne, oui. C'est l'article qui accompagne cette émission.
Voilà.
Vous pouvez effectivement, Delphine, merci de le rappeler, l'admirer dans votre ville le numéro de juin en tout cas.
Voilà. Puis, donc, il y a le chopper, le biface, et autour de moins 43 000 avant, avec Homo sapiens ou Cro-Magnon, c'est-à-dire nous, l'outillage se diversifie avec les variations climatiques. C'est-à-dire que le temps commence à s'alterner entre périodes glaciaires et tempérées, la faune et la végétation vont changer et devenir plus petites. Donc, l'homme va adapter ses outils à la pêche, à la chasse, de petits gibiers. Pour Chartres, donc ce biface qui a été découvert lors des fouilles de Saint-Chéron est lui daté du paléolithique moyen. Cet objet, certes, a été découvert hors de son contexte initial, mais il permet et il atteste surtout le passage de Néandertal sur le plateau chartrain. Et d'autres traces aussi ont été découvertes à Gélinville. Donc Néandertal est passé par ici.
Donc on sait à moins 50 000, il y avait déjà des premiers chartrains, au moins à Chartres.
Oui.
Mais revenons juste, Delphine, sur un autre petit point. On est passé rapidement, mais vous souhaitez peut-être préciser la fabrication d'objets qui seraient peut-être plus liés à l'os. À partir de quel moment ça apparaît et qu'est-ce qu'on en fabriquait?
Donc l'industrie osseuse est présente dès le paléolithique moyen avec Néandertal. On trouve la fabrication de pointes de sagaie, de lames, burins, racloirs et grattoirs. Et au paléolithique supérieur, il y a 40 000 ans, sont inventés les aiguilles à chat, les hameçons, harpons et les instruments de musique.
Mais là, on n'a pas retrouvé ces traces-là, nous, à Chartres.
Non.
Malheureusement. Que des objets en pierre, c'est le sujet du coup de notre émission.
Voilà. Mais à Chartres, ces matériaux périssables sont très peu conservés de par l'acidité du limon, des sédiments qui forment
notre sous-sol. Delphine, qu'est-ce qui se passe au-delà de Néandertal pour nous à Chartres? Est-ce que vous avez fait des découvertes particulières?
Oui, alors pour Chartres, le territoire de Chartres a livré une vingtaine de sites. Tous ces sites sont localisés en plateau, c'est-à-dire qu'on a le plateau principal qui va de la cathédrale vers Lucé et Luisan, le plateau entre l'aérodrome, la Madeleine en passant par le petit Archevilliers jusqu'à Sours, et le plateau nord-ouest qui va de Rechèvre à Mainvilliers-Céresville. Tous ces sites qui ont été trouvés sont datés de la période néolithique, c'est-à-dire au-delà de moins 10 000 jusqu'à moins 3 000 ans avant nous.
Et du coup, avant de découvrir ces objets qui datent de la période néolithique, de ces premiers agriculteurs, qu'on avait déjà évoqué avec Frédéric Dupont dans une émission précédente, là, on va vraiment rentrer dans le cœur du sujet et découvrir leur mode de vie à travers ces fabrications. Alors, on va faire une petite pause musicale et on se retrouve juste après.
I saw you in my nightmare, glowing in the dark. Oh baby, baby tiger, I need you back to hide the night out of my sight. And when we reach the big tree, Tie me up with your feet and with your mouth. You made me come a thousand times. You made me come a thousand times. And my heart might not be shaped like yours, but I swear it is big enough to be your home, and I'm the milk in your cereal bowl. Oh baby, baby tiger, I tame you with my breast. I rub you in the shower, I do my best. Time, and I give you wine, the best I'll find. And my heart might not be shaped like yours, but I swear it is big enough to be your home. I'm the man. Cereal bowl. I'm the milk in your cereal bowl.
Alors, de retour dans votre émission Histoire et Mémoire, nous sommes aujourd'hui en compagnie Delphine Capron, qui est donc spécialiste de la préhistoire et notamment des outils en pierre. Et on va particulièrement voir avec Delphine les outils découverts à Chartres et les sites découverts à Chartres qui datent du néolithique, c'est-à-dire il y a presque moins 10 000 à moins 3 000 ans pour ici. Alors Delphine, d'où proviennent les pierres utilisées par nos ancêtres, ces premiers agriculteurs?
Alors, les outils de nos premiers ancêtres pour Chartres et son territoire sont fabriqués essentiellement avec des ressources naturelles locales, c'est-à-dire le silex et différents grès. Mm-hmm. Je pense que toute personne ayant un jardin trouve ce silex particulier qu'on retrouve partout, l'argile à silex et les grès. Donc, les gisements de silex se situent majoritairement à l'ouest de Chartres. On le reconnaît à sa couleur marron-gris-bleu avec un petit liseré sous son cortex, le cortex étant la croûte du silex, qui est de couleur claire à 1 mm. Ce petit liseré souvent est de couleur rouge à brune.
Et vous Delphine, en tant que spécialiste, un silex chartrain n'est pas un silex lorrain, vraiment à vue d'œil ou au toucher, vous les reconnaissez?
Oui, car on connaît très bien les ressources naturelles et on peut reconnaître un silex, sa formation et d'où il vient. Sur certains sites, on peut rencontrer des objets en silex exogènes, c'est-à-dire qu'ils viennent d'ailleurs, en dehors du territoire, et là, oui, on reconnaît. Par exemple, ceux de l'Oise ont un aspect très mat avec des petites inclusions noires.
D'accord.
Ceux qui proviennent de Touraine ont une couleur miel. C'est le silex du Grand Précigny qui est connu.
D'accord. Mais à Chartres, nous n'avons pas d'exemple de silex, entre guillemets, importé?
Si, surtout, alors les silex, les objets en silex exogènes que nous avons retrouvés viennent surtout de l'Oise, du Nord ou de l'Ouest.
Très bien. Et vous disiez aussi, du coup, on utilisait le grès.
Oui, donc le grès, pour Chartres et son territoire, est vraiment une ressource naturelle diversifiée. On connaît par exemple le grès de Saint-Denis-d'Autou. Il y a aussi le grès d'Iroussard que l'on retrouve à 25 km à l'ouest et au sud-ouest de Chartres. Et il y a aussi le grès qu'on dit l'Adère localement qui lui affleure dans un secteur compris entre Châteaudun et Bonneval. D'accord. Et dans le nord-est, là, en fin de compte, nous nous rapprochons des bancs des sables de Fontainebleau. Donc, nous avons un grès qui est très fin et qui est très fin. Le grès a été utilisé à la préhistoire pour tous ses effets abrasifs.
D'accord.
Le silex coupe, tranche. On peut trancher, couper, gratter. Mais le grès, lui, permet de broyer, d'écraser, de polir. Et aussi de faire de la percussion, de taper.
D'accord. Et à partir de ces gisements, donc nos premiers agriculteurs ont fabriqué différents outils. Et vous, où les avez-vous retrouvés? Est-ce qu'on retrouve beaucoup de sites archéologiques qui ont livré ce type d'objets?
Oui, alors les sites que l'on a retrouvés correspondent à une vingtaine de sites. Et ces sites, donc leurs découvertes sont à relier à l'aménagement du territoire. Donc, nous avons découvert et fouillé 7 sites qui sont datés du néolithique ancien, c'est-à-dire moins 5500 à moins 7700 avant. 3 sites d'occupation néolithique moyen de 4700 à moins 2200. 3 sites d'occupation du néolithique moyen de 4200 à 3200. Et 3 sites, eux, datés du néolithique récent et final, c'est-à-dire une chronologie comprise entre 3002 et 2200 avant.
D'accord, donc on a vraiment une trace là de nos premiers ancêtres de moins 5500 jusqu'à moins 2200 à Chartres.
Oui,
et
ces sites attestent de l'implantation et d'une vie pérenne dès le néolithique pour Chartres. Les hommes sont venus, s'y sont installés et y sont restés.
D'accord. Et concrètement, Delphine, vous, quand vous trouvez les pierres, comment vous les faites parler? Quel est votre geste là de chercheuse au quotidien?
Alors déjà, sur un terrain de fouille, l'objet n'est pas récupéré tout seul. L'objet est tout de suite localisé, c'est-à-dire s'il sort d'une structure fabriquée par l'homme, ça peut être une poubelle, ça peut être un dépôt, ou si l'objet fait partie d'un atelier, comme un atelier de taille, et ainsi de suite. Puis, après la fouille, l'objet, lui, est lavé, marqué et étudié. C'est-à-dire que de cet objet-là, je vais faire parler sa matière première. D'où elle vient, si elle est éloignée ou pas du site d'occupation. Puis sa typologie, c'est-à-dire que je vais décrire son mode d'emploi. Son mode d'emploi, c'est-à-dire deux choses. D'une, comment il a été fabriqué. D'accord. Là, ça va toucher l'industrie. Parce qu'on peut avoir, par exemple, on va prendre le grattoir pour gratter ou les pots ou la terre. Un grattoir peut être aussi long que large ou très long. D'accord. C'est-à-dire qu'il peut être fabriqué sur un éclat simple ou un éclat laminaire.
D'accord.
Ces différences permettent aussi d'appréhender la période culturelle.
Et par exemple, juste pour répondre à ma curiosité, j'espère que les auditeurs auront aussi cette question. Par exemple, quand ce sont juste des lames, ça appartient à quelle période, par exemple?
Ah, on va dire une lame qui est très bien débitée, c'est-à-dire taillée, souvent elle est plutôt du néolithique ancien.
D'accord.
Les objets plus opportunistes dans leur conception sont plutôt à rattacher, on va dire, à la fin du néolithique. On va dire pour les outils usuels au quotidien.
D'accord.
Les outils qui sont... Qui vont avoir un certain statut, eux, évidemment, ont une qualité.
D'accord.
Mais quoi qu'il en soit, l'outillage renseigne du domaine d'activité. D'accord. Qu'il soit domestique, alimentaire, travail de la terre et tout ça. Et surtout, mon étude, en fin de compte, l'étude des objets est de replacer l'objet dans la main de l'homme pour pouvoir accéder à sa fonction et à son statut social.
Merci Delphine pour cette précision, mais est-ce que vous pouvez nous donner là 2-3 exemples parmi la vingtaine de découvertes locales? Quelles sont celles par exemple, par ordre chronologique, qui ont retenu votre attention?
Donc on va faire une approche chronologique et thématique. Je vais vous parler de 2-3 exemples de sites qui sont soit domestiques ou artisanaux. Et surtout montrer qu'à travers ces outils, on peut voir l'organisation d'une société. Et ces sociétés, contrairement à des idées qu'on peut avoir reçues, étaient des sociétés très organisées.
D'accord, donc il y avait vraiment des espaces peut-être dédiés ou des spécialistes, entre guillemets, de la taille de pierre, ce que vous allez nous expliquer juste après.
En exemple, je vais vous parler des sites qui se trouvent sur l'aérodrome, qui ont livré, eux, autant d'espaces d'habitat domestique que de travail de la terre. C'est-à-dire, sur ces sites, nous avons trouvé une maison qui pouvait accueillir, on va dire, une dizaine de personnes et plus. À cette maison associée, des foyers. Donc, les foyers, ce sont des aires de combustion pour cuisiner, mais aussi, alors, à ces éléments qu'on retrouve au sol, il y a le mobilier. Donc, On va dire que tout ce qui va toucher la sphère domestique seront des objets, évidemment, en pierre, mais on va dire domestiques.
D'accord.
Ça peut être des couteaux, ça peut être... Souvent, on retrouve un petit assortissement d'assaisonnement avec une toute petite meule et un petit broyon pour préparer les plats. Et aussi, juste à côté de ces maisons, donc évidemment, les fours sont éloignés des maisons pour pas qu'elles soient enfumées. Hein. Donc, il y a vraiment une organisation. Et même dans le rejet de leurs, on va dire, dans le rejet de leurs objets, l'homme néolithique avait donc, on va dire, leurs poubelles, mais jetait dans ces poubelles, on va dire, d'un côté, on pouvait retrouver, par exemple, d'un côté d'une fosse poubelle, on peut retrouver les objets lithiques et de l'autre, les objets en céramique, c'est-à-dire les poteries cassées. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une organisation de l'espace. Il y a l'endroit où l'on mange, l'endroit où l'on dort, il y a aussi les endroits de stockage, on va dire des céréales, et tout, c'est, on va dire, toutes ces sphères sont vraiment bien différenciées.
Donc il y a cette organisation et il y a même ce tri, du coup, des ordures, bien avant nous, puisqu'on sépare dans les poubelles ce qui est le rejet domestique ou artisanal.
Voilà, ce qui prouve que chaque activité avait lieu dans un espace vraiment différent et bien identifié.
Et là, sur ce site de l'aérodrome, on est à quelle période, Delphine ?
Alors, le site de l'aérodrome se situe, on va dire, de moins 5005 jusqu'à moins 4002.
Et est-ce que vous avez un autre exemple de site plus, plus spécialisé où toutes les activités domestiques et artisanales avaient lieu sur un même site ?
Alors, nous avons, je pense que nos auditeurs doivent connaître la ZAC des jardins d'entreprise. Donc sur cet espace, on a trouvé énormément de sites, on va dire avec du domestique et de l'artisanal, mais il y a un site qui a livré vraiment un atelier de taille, qui est de taille du silex. La taille du silex pour la période du néolithique moyen 2, c'est-à-dire compris entre moins 4000 et moins 3002.
On se rapproche un tout petit peu de nous.
Voilà. Donc là, c'était vraiment un espace où l'homme a vraiment fabriqué que ses objets.
D'accord.
Voilà, il fabriquait ses outils. Et pour cette période-là, les outils typiques sont le pic, tranché, ciseaux, qui permettent de travailler la terre.
D'accord. Delphine, est-ce qu'il y a un autre site avec une activité très bien identifiée que vous avez découvert ?
Oui, sur le site de Boisville, juste avant Cérèsville, et ce site a livré des palissons. Ce sont des petits objets en grès, quadrangulaires, qui servaient au travail de la peau. Et sur ce site, nous n'avons trouvé que des foyers, donc des fours, et des indices de travail de peau sans habitat.
Et cette peau, elle servait à quoi ?
Ah ben, elle peut, pour l'habillement.
D'accord.
Pour faire des gourdes ou pour les maisons de l'intérieur. Couverture, toile de tente.
Delphine, si on revient sur un site un peu plus proche de Chartres, est-ce qu'il y a un quartier ou une découverte que vous avez fait plus intramuros ?
Oui, je voudrais vous parler du quartier de Beaulieu, aujourd'hui les Petits Clos. Donc cet espace-là est un espace vraiment, on va dire, pour un archéologue fabuleux, car il est occupé dès le néolithique moyen et ancien, c'est-à-dire des moins 5005, tout le néolithique, tous les hommes du néolithique ont habité, ont travaillé et ont vécu sur ce plateau, y ont cultivé. Et à la fin du néolithique, cet espace est dédié simplement où il est abandonné et il est dédié simplement qu'à l'activité viniculture et agricole. C'est-à-dire que nous, archéologues, quand on est venu faire les tranchées, juste sous la couche d'humus, nous avons retrouvé en place toutes les structures néolithiques.
De nos ancêtres.
C'est-à-dire qu'avant les années 1946, la date à laquelle le quartier a été aménagé, cet espace n'était habité qu'autour de moins 5000 avant, jusqu'à moins 2000.
D'accord, donc c'est laps de temps où aucune perturbation humaine n'est venue entacher le site initial. Et qu'est-ce que vous y avez découvert particulièrement ?
Alors nous y avons découvert de magnifiques fours, donc deux fours qui devaient servir à la cuisson avec vraiment comme une petite cloche.
D'accord.
Nous y avons découvert un habitat, donc la maison, les fours, des foyers, et nous avons aussi découvert des petites fosses de stockage de graines. Les graines, donc graines qui ont été aussi récupérées.
Et en termes d'objets en pierre ?
Oh, il y a eu plein de belles choses. Bracelet en schiste, on a trouvé une très belle pointe de flèche à aileron et pédoncule qui allait dater du néolithique final. Nous avons aussi découvert des objets de mouture et puis après, évidemment, tous les outils en pierre pour travailler la terre. Donc l'homme s'y est installé, a cultivé sa terre, a récolté ses céréales, les a stockées, en a fait de la farine et avec les fours a pu faire du pain, des galettes.
Oh, ça met de l'eau à la bouche, il est bientôt midi. Mais tant pis, c'est sur cette petite note que nous terminerons cette dernière émission de la saison. Et je vous remercie à tous de nous avoir suivis tout au long de l'année. Vous pouvez retrouver Delphine et les collègues archéologues lors des journées de l'archéologie, donc les 17 et 18 juin prochains, pardon, sur le site archéologique de Saint-Martin-en-Val, pour découvrir notamment lever les préjugés plutôt sur la préhistoire. Vous pouvez avoir un aperçu aussi dans votre ville du mois de juin. Néanmoins, je vous invite, si vous le souhaitez, à réécouter ou télécharger l'émission sur le site internet de Radio Grand Ciel. Et j'espère à la rentrée prochaine. Très bel été à tous.